Bonjour, c'est Arthur du site faitdelaphoto.fr et bienvenue dans cette première interview. Alors, elle est un petit peu spéciale car elle n'est pas en rapport avec la photo, mais c'est une interview que j'ai fait avec un astronaute en 2016. Je suis avec deux camarades de classe de l'époque et une prof de français. Et comme on entendait mal les questions, j'ai décidé de les répéter et de me réenregistrer par-dessus. Désolé pour les petites erreurs. Donc l'interview commence un petit peu bizarrement car on lui avait déjà dit bonjour, on était rentré dans son bureau et on n'a pas pu du coup lui dire bonjour tout en enregistrant. Du coup ça commence directement avec la première question et ça va durer à peu près 1h40. Je vous souhaite de profiter de cette interview, elle était super intéressante. Elle était peut-être pas énormément en rapport avec la photo mais... Mais on apprend plein de trucs intéressants sur le métier d'astronaute, donc j'espère que ça vous plaira. Comment avez-vous trouvé votre voie?
Alors je le suis assez tard. Moi, je voulais aller dans l'espace tout petit, mais j'ai jamais pensé que je voulais aller dans l'espace pour y exercer mon métier. Non, j'ai voulu entre-temps, quand j'avais votre âge, être médecin, parce que je trouvais que réparer des gens, c'était le plus beau métier du monde. J'ai voulu être architecte, parce que j'aimais dessiner, et je pense que créer, c'est aussi un beau métier, un métier de création. Et puis, c'est dans mes études. Après le bac, je me suis trouvé naturellement à faire une prépa. Et j'étais au Prytanée, à La Flèche, où j'étais dans une prépa spécialisée pour préparer le concours de l'école polytechnique que j'ai intégré. Et quelque part, l'espace qui me fascinait depuis toujours, mais à titre, je dirais, de curiosité, pas à titre professionnel, me fascinait par la capacité qu'on avait, nous, les hommes, à inventer des machines qu'on télécommandait à des millions de kilomètres de distance. Donc, ce qui m'a inspiré, c'est à la fois le fait que j'ai toujours été fasciné par les machines télécommandées. Donc, quand j'avais 8 ans ou 9 ans, j'ai eu ma première voiture téléguidée, vous savez, avec un petit volant et un câble. J'ai une soucoupe volante téléguidée aussi. Puis après, j'ai construit mon avion télécommandé. Et cette idée de machine télécommandée, je le voyais comme une forme de téléportation virtuelle de l'intelligence humaine. On construit un truc, on met une intelligence dedans, et puis à distance, on arrive à lui faire faire des choses qui sont comme de l'excroissance, de l'augmentation de l'opérateur. Et quand j'étais à l'école polytechnique, j'ai mûri, et c'est là que j'ai mûri l'idée de travailler dans le domaine spatial sur les satellites et les sondes interplanétaires. Et puis une fois au CNES, comme je devais avoir quelque part un peu le goût de l'aventure, parce que j'étais déjà parachutiste, pilote privé d'avion, et parachutiste sportif, pilote privé, hein, pas pour ma profession, mais j'ai candidaté à la première opportunité qui s'est présentée de sélectionner des astronautes. Il y a eu que trois sélections à l'échelle française, et il n'y en a que trois à l'échelle européenne. Donc moi, je fais partie de la deuxième sélection française en 85. Et j'ai redémarré à zéro un processus de sélection à l'échelle européenne en 92. Il y en a eu que trois en France, 80, 85, 90, espacé de 5 ans. Il y en a eu trois à l'échelle européenne, espacé de 15 ans, 77, 92, et plus récemment en 2009, donc 17 ans plus tard. Et donc c'est un peu. C'est certainement à la fois mon goût pour le spatial. Mon goût professionnel pour le spatial et quelque part le côté aventurier que j'ai toujours eu, qui a fait que je me suis naturellement porté candidat et j'ai eu la chance d'avoir été retenu à chaque étape qui m'emmenait à l'étape suivante.
Quel élève étiez-vous pendant vos études?
Alors je dirais que jusqu'à mon bac, j'étais un élève moyen, très moyen. J'étais pas très attentif. J'avais pas conscience que l'attention pouvait en fait faciliter les choses. Il y a des matières ou des profs qui me branchaient pas. Enfin, je veux dire, j'étais quand même un minimum sérieux. En fait, mes notes, elles ont augmenté vers la première et terminale. Parce que j'étais un élève sérieux je dirais, responsable. C'est-à-dire, je voulais pas perdre mon temps. Donc, quitte à pas perdre mon temps, autant que le temps que je passe à faire ce que je dois faire serve à quand même avoir de bonnes notes et pouvoir candidater à des bonnes études supérieures. Ça, c'est quelque chose qui est très important et je crois que tous les profs le disent aux élèves qui rentrent au lycée. Sachez que dès la seconde, alors je sais plus si c'est une autre remonte à la seconde, mais en tout cas jusqu'à la première, hein, ça compte pour avoir les choix après. Mais j'étais moyen. J'ai eu mon bac d'ailleurs avec mention assez bien, avec 0 point d'avance. Donc j'ai peut-être, je me souviens, j'ai eu 204 points. Donc 204 points, ça doit être un multiple de 12. J'ai eu 12,00 sur 20 au bac, quoi. Et puis, quand je suis rentré en maths sup, j'ai eu des très bons profs. Et puis, ça a été vraiment une révélation, en maths et en physique, enfin, en sciences, c'est-à-dire que je découvrais des concepts d'un très haut niveau d'abstraction qui était presque jouissif de me rendre compte que j'étais capable de comprendre des trucs pointus. Mais pour ça, fallait être très attentif. Et c'est là que j'ai développé naturellement, par moi-même, sans le savoir, les techniques de ce qu'on appelle l'écoute active. C'est-à-dire quand le prof parle, se donner entièrement au prof, qu'est-ce qu'il est en train de me dire? C'est un acte de générosité, l'écoute active. C'est pas oh, ça me fait chier ce qu'il est en train de dire, c'est que c'est chiant, oh, j'aimerais bien faire autre chose. C'est pas ça, c'est se donner entièrement à la personne qui parle en se disant, mais qu'est-ce qu'il est en train de me dire dans la substantifique moelle de ce qu'il dit, de chaque mot. Et là, ça permet d'aller beaucoup plus loin et plus haut dans l'abstraction, parce que quand on fait des études scientifiques, il faut développer la capacité, le pouvoir d'abstraction exigé en maths et en physique en France est très élevé, beaucoup plus élevé que dans les pays anglo-saxons. Et de là, ça a continué tout le temps jusqu'à la fin de Polytechnique. C'est-à-dire que Alix, quand je suis arrivé à l'école Polytechnique, on nous a dit, on va vous apprendre ce qu'il y a de plus avancé à ce jour en connaissances, en maths, en physique, en chimie, en mécanique quantique, Donc on nous apprenait des concepts qui venaient d'être découverts ou développés par des thésards l'année précédente. Et donc c'était un régal intellectuellement. Donc en gros, j'étais un élève moyen, après un élève curieux, puis après un élève qui juste avait du plaisir à faire de la gymnastique intellectuelle, mentale, avec les concepts qu'on nous enseignait. Mais c'était vachement important d'écouter le prof. Hein. J'ai eu des sommités à l'école polytechnique qui sont ou décédés ou retraités, comme Laurent Schwartz, très grand mathématicien, médaille Field. Et Jacques Willions, qui a eu la médaille Field, son fils a eu la médaille Field. C'est l'équivalent du prix Nobel en maths. Il paraît qu'il n'y a pas de prix Nobel en maths parce que le créateur du prix Nobel a.
Sa femme n'était pas très fidèle, paraît-il, non?
Sa femme l'a lui a été infidèle avec un mathématicien. Bon, je connais pas, c'est peut-être des histoires d'ailleurs, hein, je sais pas. Et Laurent Schwartz, c'était hallucinant, quoi. À la fin d'un cours, avec lui, on se disait, waouh, j'ai aujourd'hui fait un gap comme ça. Mais si dans la foulée, on ne rebossait pas le cours pour bien s'imprégner, avant le cours suivant, c'était la semaine suivante, on n'avait qu'une matière une fois dans la semaine, et on avait la suivante la semaine d'après. Ben, il fallait bosser dur pour regravir, quoi. Donc voilà, je suis devenu un élève de plus en plus bon avec le temps, mais sans jamais être un génie. Ben, j'ai autour de moi, aussi bien en maths spé, en prépa qu'à l'IX, des garçons et des filles, on ne sait pas comment ils sont câblés, mais ils ont l'impression qu'ils ont ça comme ça naturellement. Moi, je bossais quand même. Et puis après Polytechnique, là je dirais que j'étais plus un élève à Polytechnique, j'étais un ingénieur étudiant. J'apprenais mon métier d'ingénieur. Donc forcément j'étais intéressé parce que je l'avais choisi.
Combien d'années d'études en tout avez-vous fait?
Alors d'études, donc après le bac,
Après votre post-bac.
2 années de prépa. 3 années de l'école polytechnique, dont seulement 2 d'études, puisque la première année de l'école polytechnique est un vrai service militaire standard à mon époque, d'une année, où on n'étudie pas. On sert la nation dans les armées. Et après, 2 années à Supaéro, parce que quand on a fait l'école polytechnique, on rentre directement en deuxième année sur les 3 années d'études standards de l'époque des écoles d'ingénieurs. Après, j'ai commencé à travailler au CNES. Et 2 ans après ma sortie de Supaéro, donc je commence à travailler au CNES, le Centre National d'Études Spatiales, où vous êtes ici d'ailleurs, pas dans ce bureau, mais dans ce bâtiment. C'est-à-dire ce bureau, c'est entre autres une filiale du CNES, mais on est colocataire avec le CNES. Hein. Je ne suis pas CNES du tout, moi, je n'ai plus rien à voir avec le CNES. J'ai été CNES une période, je suis ESA aujourd'hui, hein, l'Agence Spatiale Européenne, qui est une organisation totalement différente. Mais j'ai travaillé 2 ans au CNES, j'ai été sectionné astronaute, et un an après, enfin, juste après avoir été sectionné astronaute, j'ai fait des études de russe 6 à 8 heures par jour pendant 2 mois et demi, 550 heures en 2 mois. Donc ça, c'est on va dire un trimestre d'études. Et je suis retourné à l'école faire une année d'études comme ingénieur navigant d'essai à l'EPNER, E-P-N-E-R, École du personnel navigant d'essai et de réception. C'est une des rares écoles dans le monde, comme il y en a en Angleterre, il y en a 2 aux États-Unis, qui forme le personnel habilité à faire des essais en vol sur aéronefs qui ne sont pas encore qualifiés ou certifiés. Donc j'ai appris un nouveau métier. Donc je peux dire que j'ai fait 4 années d'études purement scientifiques entre mes 2 années de prépa, MATSUP, MATSP, ça s'appelle toujours comme ça, MATSUP, MATSP. Maintenant on dit SUP, SP, peut-être SP, SP. Enfin, MATSUP, MATSP, et 2 années à l'école polytechnique, c'est 4 années vraiment purement scientifiques. Où c'est que de la connaissance scientifique que j'acquiers. J'apprends pas à faire un boulot. 2 années de formation technique à Supaéro, où j'apprends à être ingénieur, et 1 année de formation opérationnelle pour apprendre à exercer un métier comme navigant à bord d'un aéronef. Donc au total, ça représente 7 années d'études étalées sur de 78 à 87 sur 9 ans. Donc les 3 années sur 10 où j'ai pas étudié, c'est 1 année de service militaire et 2 ans de travail comme ingénieur système spatiaux au CNES.
Quels sont vos diplômes, distinctions ou décorations?
Alors mes diplômes, alors je suis diplômé de l'école polytechnique qui me donne automatiquement à l'époque le master en maths, physique, chimie. J'avais la licence automatiquement en étant admissible. Puis à la sortie, on avait le master. Bon, bah, depuis, ça a changé un peu les équivalences, mais ça doit être à peu près pareil. J'ai le diplôme d'ingénieur de l'École nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace, qui s'appelait à l'époque, qu'on appelait communément Supaéro, et qui maintenant est commune à d'autres écoles. Ça s'appelle maintenant ISAE Supaéro, Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace. Mais on a gardé tirer Supaéro, parce que Supaéro, c'est le petit nom, ça peut dire le diminutif de l'école la plus fameuse en aéronautique en France et de réputation mondiale. Et j'ai le diplôme et le brevet d'ingénieur navigant d'essai. Bon, ça, c'est les diplômes de formation académique. Maintenant, j'ai d'autres diplômes qui sont plus des diplômes dus à mon travail. Par exemple, la Fédération Aéronautique Internationale délivre, qui est l'organisation internationale qui délivre les records et les diplômes pour des performances dans l'aéronautique et le spatial. Et à ce titre, j'ai le diplôme Komarov et le diplôme Korolev de la FAI pour mes missions qui ont été des premières, sur ma première mission et ma deuxième mission. Et en médaille, eh bien, je suis officier de l'ordre de la Légion d'honneur. Je suis chevalier de l'ordre national du mérite. Et j'ai la médaille de l'aéronautique pour ce qui est des décorations françaises. Et côté américain, j'ai 3 NASA Service Medal, médaille de service de la NASA. Et en fait, qu'on a automatiquement, après un vol spatial, comme professionnel volant à bord d'aéronefs, de vaisseaux spatiaux NASA. Et j'ai 2 Exceptional Service Medal, de médaille de service exceptionnel de la NASA. Tout ça, c'est dans ma bio. C'est sur Wikipédia. Ma fille a mis à jour Wikipédia là, le week-end dernier. Donc, vous pouvez retrouver les titres exacts de tout ça. Et la médaille aéronautique, c'est probablement pour la création il y a une trentaine d'années. Et puis, plus récemment, le développement augmenté de cette activité de vol parabolique avec l'Airbus 0G. L'Airbus 0G qui est maintenant un A310 et que j'ai réussi à ouvrir au public il y a 3 ans pour des vols payants individuels. Ce qui n'était pas évident parce que je peux vous dire qu'en Europe, la réglementation pour autoriser à emmener du public dans un avion, dans un truc qui vole, faut se lever tôt. Oui. Et ça, c'est parce qu'en Europe, en France en particulier, les autorités de réglementation qui signent qu'un truc est bon pour voler et embarquer des passagers, il engage sa personne physique. Il peut aller en tôle, il peut être condamné et aller en prison, ce qui n'est pas le cas aux États-Unis. Si la personne qui a demandé l'autorisation à démontrer en toute honnêteté, ben voilà tous les calculs, donc ça doit être sûr, et je fais signer un abandon de recours aux passagers, tout ça, ça marche pas chez nous, mais ça marche aux États-Unis. C'est pour ça qu'ils arrivent à faire des trucs un peu plus osés que nous. Ou alors les diplômes, les décorations, oui. Les livres peut-être, vous voulez savoir?
Oui, les livres.
Alors les livres, j'ai écrit mon premier livre qui s'appelait Histoire d'espace, donc ça je suis 100% l'auteur. Et pas d'exemplaire ici, je crois pas. Et puis après, j'ai été co-auteur de plusieurs autres livres. Toujours ce qui touche à l'espace, au vol suborbital, au tourisme spatial. Le plus récent, c'est ce livre sous forme d'almanach de luxe de Vuibert. C'est la première fois que Vuibert fait ce qu'ils appellent un livre de luxe. Ce qu'ils appellent un beau livre,
oui.
Et qui raconte l'histoire des vols habités. Voilà. Donc, il y a beaucoup d'encarts que j'ai écrits, je les ai tous écrits de tête sans la moindre bibliographie, parce que c'est du pur vécu personnel. Et j'ai écrit aussi peut-être une quinzaine de préfaces de différents livres. Et des livres qui ne sont pas liés au spatial, mais dans lequel j'ai contribué avec mon expérience d'astronaute, c'est des livres sur... alors, il y en a un, c'est « Dans les bars des bouts du monde ». Donc, c'est une dizaine d'auteurs qui racontent leur expérience de bar de l'extrême. Donc, moi, je leur parle du bar, boire de l'alcool dans l'espace. C'était interdit, mais bon, chez les Russes, on trouve toujours le moyen de le faire. Et puis, l'autre livre, c'était « Face à face ». Donc c'est pareil, on doit être une douzaine d'auteurs. Et moi, c'était le face-à-face avec le cosmos. J'ai écrit un chapitre aussi d'un livre sur la voix où on m'a demandé d'écrire une lettre à ma propre voix. Donc, c'était un peu bizarre. Donc je parle à ma voix comme si ma voix était un être. Parce que dans l'espace, c'est important la parole. Quand on prend le micro et qu'on parle à la Terre, faut respecter une certaine phraséologie, une certaine clarté, une certaine terminologie. Et en écriture, ça doit faire. Bon, tout ça, c'est aussi dans ma bibliographie. Et puis un truc un peu original aussi, c'est que j'ai inventé une montre. J'ai écrit un document. J'étais en mission pendant quelques semaines en Russie il y a une quinzaine d'années. Et puis quand je m'ennuyais le soir à l'hôtel, j'ai écrit un document qui s'intitulait « Spécification de la montre idéale ». Pour le vol spatial et la navigation en général. C'est-à-dire les fonctions que j'aurais aimé avoir sur ma montre de poignet quand j'avais été dans l'espace. Et j'en ai parlé à l'Agence spatiale européenne, mon employeur, qui m'a dit, comme tu l'as fait grâce à l'expérience que tu as acquise en étant astronaute chez nous, il faut qu'on le protège, et c'est l'ESA qui se charge de le protéger. Donc l'ESA est propriétaire du brevet, mais ça reste mon invention. Et ils m'ont demandé de consulter des constructeurs... horloger pour la faire et pour qu'on ne paye pas la protection du brevet chaque année pour rien. Donc j'ai consulté Bell Eros, TAG ER, Breitling, Omega, Zenith, enfin plein de marques, et qui tous trouvaient les idées très intéressantes, certains trucs vraiment innovants qui n'existaient pas. Et puis sans vraiment conclure, parce que ce n'était pas juste redécorer un boîtier existant, comme il y a des montres où on ajoute un logo, c'était redéfinir les fonctions dans la montre. Et puis il y a 4 ans, Omega est venu voir. Ils m'ont contacté en me disant, écoutez, finalement, on va bien faire votre montre. Et donc on a démarré un partenariat, je suis allé plusieurs fois à Bienne chez eux, et ça a donné, voilà, ça a donné cette montre qui s'appelle la Speedmaster Skywalker X33. Ils m'ont permis de choisir le nom. Donc, vous connaissez Skywalker. Oui. Et dedans, toutes les fonctions, c'est exactement mon bébé. Voilà. Et le boîtier, c'est leur boîtier qu'ils ont relooké d'un modèle précédent qui s'appelait déjà Speed, dans la famille des Speedmaster. Dans la famille des Speedmaster, il y a la fameuse montre mécanique qui a été sur la Lune. La Moonwatch, comme on l'appelle, qui est une montre mécanique. Et dans la famille des Speedmaster, il y a une vingtaine d'années, Omega a introduit la première montre à quartz, donc électronique. Dès qu'il y a du quartz, le temps est beaucoup plus précis, c'est à pile, et on peut afficher des informations, en plus d'avoir les aiguilles qui mécaniquement tournent. Et donc c'est une évolution de la X33, c'est le même matériel du titane, la même électronique, la même batterie, le même écran LCD, mais la programmation de l'affichage et toutes les fonctions affichées, c'est entièrement mon invention. Voilà, donc ça, je suis assez content. J'ai ma montre. J'ai ma montre à mon poignet. J'ai fait faire des essais sous vide thermique, etc. C'est pour ça que derrière, il y a écrit « Tested and Certified by ISA ». Puis après quelques temps, les jurys se sont dit « Mais l'ESA n'a pas le droit de certifier, n'est pas homologué pour pouvoir certifier des équipements d'horlogerie. » Donc ils ont modifié par Qualified, mais les premières montres étaient frappées. Donc j'ai les quelques montres où il y a marqué Tested and Certified au lieu de Qualified. Mais elle est dans le commerce hein, depuis un an. Il y a un accord signé entre Omega et l'ESA. Et c'est pas moi qui touche les royalties, mais enfin, c'est ma montre.
Et sa particularité en fait, parce que vous auriez voulu l'avoir dans l'espace justement.
Bah, il y a plusieurs particularités, mais il y a plusieurs améliorations ergonomiques. Mais je ne vais pas rentrer dans le détail, qui rendent les alarmes intéressantes, etc. Mais la fonction la plus innovante, et qui est toute bête, hein, c'est une fonction compte à rebours. Vous voyez ce que c'est un compte à rebours, qui s'appelle en général dans les mondes TMR, timer. Le timer, classiquement dans une montre qui ont un timer, vous rentrez une quantité de temps que vous devez décider vous-même, c'est quoi que je rentre dedans. Et au moment où vous appuyez sur le bouton démarrer, ça compte à rebours jusqu'à zéro. Et à zéro, ça sonne et ça s'arrête. Donc cette montre, je l'ai, hein, la montre timer classique. Et j'ai amélioré son ergonomie d'ailleurs. J'ai rendu son ergonomie exactement la même que le chronographe. Alors que sur les montres classiques qui ont un chronographe qui lui est un compte en avant et compte à rebours, ça ne fonctionne pas pareil. Moi, dans mon compte à rebours classique, je peux l'arrêter, je peux faire les temps intermédiaires, etc. Mais alors, la fonction timer originale que j'ai inventée, qui s'appelle MET, Mission Elapsed Time, c'est un compte à rebours que j'initialise non pas en rentrant une quantité de temps, mais une date du T0. Je rentre la date d'un événement, comme votre date de naissance. Je n'ai pas à calculer quoi que ce soit, je n'ai pas à guetter le moment où démarrer la montre. La montre, une fois que j'ai rentré la date, elle calcule toute seule le temps qu'il y a jusqu'à ou écoulé depuis cette date et elle me l'affiche. Donc si je mets l'instant zéro, la date du décollage, qui est connue longtemps en avance, hein, vous imaginez quand on lance un vaisseau spatial, on sait à l'avance à quelle date, à la seconde près, on veut le lancer. Et donc je rentre la date et la montre, elle m'affiche en jour, heure, minute, seconde, qui décompte jusqu'à cette date. Et à zéro, ça continue en avant. Parce que dans la navette spatiale, l'échelle de temps principale, c'est le temps écoulé en jours, heures, minutes, secondes, depuis l'instant zéro de décollage. Et la seule montre qui avait MET avant, c'était le modèle précédent d'Omega, mais qu'il fallait programmer à l'ancienne méthode du timer, complètement idiot. C'est à l'astronaute de calculer, bon, compte tenu que l'heure du décollage s'étend, bon, alors, je vois l'heure, bon, je vais attendre quelques minutes. Et je vois que dans 5 minutes, il restera exactement 1 jour et 10 heures. Parce que je calcule. Donc je rentre moins 1 jour, 10 heures, 0 minutes, 0 secondes, que j'ai calculé en espérant pas faire d'erreur. Et puis j'attends que ce que j'ai rentré dans ma montre corresponde à la réalité du temps qui passe. Et je dis démarre maintenant. C'était idiot. Il suffisait de rentrer la date. Donc voilà, genre, ta date. Alors, et j'ai créé des alarmes de genre. C'est-à-dire, j'ai créé des alarmes où vous pouvez rentrer la date que vous connaissez à l'avance d'un événement donné. Et non seulement ça sonnera exactement à cette date-là, mais en plus, ça vous affiche dans combien de temps ça va sonner ou depuis combien de temps ça a sonné. Parfois, il y a des événements, vous voulez, vous mettez une alarme pour un certain truc important, mais c'est aussi important de savoir depuis combien de temps ça a sonné. Enfin, je pourrais vous en parler plus, mais ça, c'était juste la fonction qui n'existe sur aucune autre montre. Alors, je viens de voir il y a une semaine que Breitling fait la pub pour une toute nouvelle montre où ils affichent une liste de fonctions dont la moitié sont les mêmes que la mienne. Donc j'ai demandé à Omega de vérifier s'ils n'avaient pas copié sur le brevet.
Le temps que vous consacrez à votre travail vous prive-t-il de certaines choses ?
Alors, le temps que je consacre à mon travail m'a privé de certaines choses à l'époque où je m'entraînais pour mes missions. Par exemple, quand je me suis entraîné pour la mission Hubble, je n'ai pas pris un jour de congé pendant presque un an. Pendant un an à peu près. En fait, si je fais un aller-retour d'un jour pour être au Salon du Bourget, Houston-Paris, donc Houston décollage le soir, quand on va dans ce sens, on décolle toujours le soir, comme ça on dort dans l'avion, et on arrive le matin. Donc je suis arrivé le matin à Paris, je passe ma journée au Bourget, et le lendemain matin, vers 11h du matin, j'ai pris l'avion pour Houston. C'est la seule fois que je n'ai pas... Donc à l'époque, je faisais pas, j'avais pas de projet associatif ou important, je prenais pas de congé. Mais j'essayais toujours de rentrer à une heure décente le soir chez moi, puisqu'à la NASA, on rentre chez soi le soir. J'habitais à 1 km de mon bureau, où j'avais ma famille, mes enfants en bas âge. Et j'entrais vers 18h, donc comme ça je voyais les enfants, on mangeait en famille, on les couchait, puis après je rebossais de la maison. Mais depuis, j'ai réussi à pouvoir reprendre de temps en temps des périodes de congés bloqués pour partir en vacances, voyager un peu et faire autre chose. Je peux pas dire que vraiment ça m'a empêché. Je veux dire, mon travail m'a pas plus empêché, à part les quelques périodes très intenses d'entraînement pour mes missions, pour mes 3 missions. Donc ça représente en gros 3 fois 1 an et demi. Hein. Je ne peux pas dire que ça m'a empêché plus qu'un autre job typique d'ingénieur ou de cadre. Alors il se trouve maintenant je suis à mi-temps astronaute à l'ESA, où j'apporte mon expertise au programme en cours de vol habité. C'est ce que font tous les astronautes qui ne sont pas affectés à une mission, qui ne sont pas en cours d'entraînement pour une mission. Et ben, entre leur période d'entraînement et de vol, ils sont utilisés comme experts dans le programme. Donc ça, c'est ce que je fais à mi-temps. Et puis à mi-temps, je suis président de la société qui est propriétaire de cet avion, qui fait des vols paraboliques. Et là, j'ai moi-même la possibilité d'organiser mon agenda comme je veux. Donc je peux arranger pour pouvoir partir en vacances quand c'est possible avec ma famille ou pour faire des expéditions, des croisières ou faire du sport.
Quelles sont les qualités requises pour faire astronaute ?
Pour être astronaute, alors il y a des qualités, il y a des paramètres sur lesquels on ne peut pas jouer beaucoup, et puis d'autres sur lesquels on peut jouer. Il faut d'abord être né dans le bon pays au bon moment. C'est-à-dire dans un pays qui a un programme spatial, qui contribue à un programme de vol spatial habité, et au bon moment, c'est-à-dire de telle sorte à être à la bonne tranche d'âge quand il y a une sélection. Depuis 1990, donc depuis 25 ans, les seules sélections en Europe, c'était celle de 92 et celle de 2009. Donc espacée de 17 ans. Or, on sélectionne les gens typiquement dans une tranche d'âge de 30 à 35 ans. Enfin, officiellement, c'est de 27-28 à 36-37 ans. 27-37 ans. Mais en pratique, on sélectionne des gens qui ont déjà un peu d'expérience professionnelle, mais qui sont assez jeunes pour que l'investissement dans leur formation leur serve à voler plusieurs fois. Donc ça fait des jeunes qui ont entre 30 et 34, 35 ans, typiquement. Donc si vous ne vous trouvez pas dans la bonne tranche d'âge au moment où il y a un appel à candidat, c'est râpé, même si vous avez tout le reste bon. Donc être né dans le bon pays au bon moment, avec un bon dossier médical, c'est-à-dire avoir la chance d'être né sans être... trop sans avoir de trucs de travers un peu trop excessifs. Et après l'avoir entretenu, mais comme chacun devrait faire pour rester en bonne santé en général, faire du sport régulièrement, le sport que vous voulez, hein, il n'y a pas de sport à imposer. Et puis avoir typiquement bac plus 6-7 en moyenne. Typiquement double master ou un doctorat. Ou équivalent à ça. Par exemple, un pilote d'essai, un pilote, il a pas, il y a beaucoup de pilotes, ils n'ont pas suivi une formation leur permettant d'accéder à ce qu'on appelle un master ou un doctorat. Mais on leur demande d'avoir une qualification de pilote d'essai. Donc c'est le top du... le top of the notch, comme on dit en anglais, en termes de pilotage. Tim Peake, l'anglais qui est en orbite en ce moment, c'est un pilote d'hélicoptère qui a passé son brevet de pilote d'essai dans une école comme celle que j'ai faite, comme le PNR. Donc ça, c'est pour la partie académique. Et après, sur le plan de la personnalité, il faut être plutôt d'une nature calme, aimer travailler en équipe, et puis être bien câblé intellectuellement et psychomotrie, si en psycho, comment on dit, psychomotricité. Parce qu'il y a des tests. L'étape psychologique qui devient la plus importante, il y avait deux étapes lors de la dernière sélection. J'étais dans le jury, moi, qui a sélectionné les nouveaux dans une des étapes. On faisait les tests psychotechniques. Les tests psychotechniques, c'est en gros le QI, quoi, quotient intellectuel. C'est-à-dire, on regarde votre capacité à mémoriser rapidement, à calculer, à raisonner, à résoudre des problèmes de logique. C'est des tests de personnalité. Donc là, dans le test du QI, on cherche à prendre ceux qui sont plutôt bien câblés, c'est-à-dire qui sont au-dessus de la moyenne. Dans les tests de personnalité, il n'y a pas une personnalité meilleure qu'une autre. C'est juste pour identifier ceux qui ne sont pas faits pour le job. C'est-à-dire les cas pathologiques, les fous, les paranoïaques, tout ça, enfin, même sans aller à des maladies psychiatriques. Mais il n'y a pas un type de personnalité meilleure, entre guillemets, qu'une autre pour être astronaute. On veut juste prendre les personnes qui sont, qui n'ont pas de caractéristiques excessives. Et puis les tests psychomoteurs, je pense que toute personne qui est normalement constituée, qui a des activités épanouies normalement, normales, doit les réussir. C'est des tests d'adresse gestuelle, hein, comme du pilotage. Et en général, ça demande à pouvoir se concentrer. Moi, le test que j'avais qui était assez tordu, c'est qu'il y avait à la fois des triangles qui s'allumaient blancs avec une pointe en haut ou un plat en haut, en même temps qu'il y avait des loupiottes couleur verte, rouge ou bleu, et en même temps des sons graves ou aigus. Et selon la combinaison, il fallait appuyer sur le bouton avec la main droite ou la main gauche, ou le pied droit ou le pied gauche, ou que les pieds ou que les mains. Enfin, il fallait rester concentré pour être sûr de réagir comme il fallait. Donc, quelqu'un qui a exercé un métier à caractère opérationnel avant de passer ce test, à mon époque, était a priori, avait déjà créé les câblages neuronaux dans son cerveau, hein, qui rendait apte à être à l'aise dans ce test. Mais c'est accessible à tout le monde. Mais à notre époque, des jeunes qui ont fait des jeux vidéo un peu sophistiqués, où il y a plein de boutons partout, etc., ils n'auront jamais de problème à ce genre de test. Donc ça, c'est les tests psychologiques numéro un. Puis après, il y a des tests de dynamique de groupe. Donc on donne un problème à un groupe de candidats. En général, ils sont 5 ou 6. Et après, on leur dit, voilà, vous avez 20 minutes pour résoudre ce problème. Désigner un porte-parole et qui va apporter la solution au jury. Le jury, c'est typiquement un responsable des ressources humaines, des psychologues et au moins un astronaute. On les observe pendant leur débat, on est à côté d'eux, là, ils sont autour d'une table et nous, on est juste à côté, donc on voit comment ils travaillent entre eux, et après, on écoute la solution. Donc, je dirais, pour tout ce qui est de l'étape psychologique, il faut être plutôt bien câblé en termes de capacité intellectuelle. Et sur le plan purement psychologique et personnalité, ben, être quelqu'un de normalement sociable, à l'aise et qui travaille bien avec les, qui sait trouver sa place au milieu d'une équipe. Et après, il y a une fois qu'on a fait tout ça, sur lequel vous pouvez jouer. C'est-à-dire que le candidat, ce pourquoi il peut jouer le plus, c'est en supposant qu'il a le bon âge dans le pays qui lui permet de candidater, qu'il a les bons diplômes. C'est travailler justement cet aspect psychotechnique, psychomoteur. Mais après, il y a un test, il y a une semaine d'expertise médicale très poussée. Et là, ben, vous êtes comme vous êtes, quoi. On est comme on est. On nous expertise sous toutes les coutures, par tous les orifices, 5 jours d'affilée, du matin au soir. Échocardiogramme, phonocardiogramme, électrocardiogramme, encéphalogramme. Test psy, urographie veineuse, hyperglycémie provoquée, test calorique dans les oreilles, test vestibulaire, enfin tous ces machins-là. Et bon, on en apprend plein sur soi-même, mais bon, là, on ne s'est pas décidé à l'avance. Et puis à la fin, il faut avoir la chance. Donc en résumé, avoir la chance d'être né dans le bon pays au bon moment, avoir été suffisamment sérieux dans ses études supérieures pour acquérir l'équivalent de 2 masters ou 1 doctorat ou bac plus 6 ou 7 en moyenne, dans un domaine à caractère technique, scientifico ou opérationnel. Et savoir travailler en équipe de façon productive et positive. Et avoir un bon dossier médical. Et puis à la fin, avoir de la chance. Parce que quand il y a une sélection, il y a toujours à la fin, typiquement, une trentaine de personnes, 20 à 30 personnes, qui sont toutes déclarées aptes pour le job. Mais on n'en sélectionne que 5 ou 6 à chaque fois. Ça a été 5 ou 6, jamais plus. Alors pourquoi ces 5 ou 6-là et pas les autres? Ben, le jour où ils ont décidé, ben, j'avais de la chance, c'est tombé sur moi. Mais ça aurait été un autre directeur général avec un autre jury. Peut-être que hop, ils auraient eu le feeling un peu plus pour le gars à ses côtés de moi, quoi. Donc, alors, quelque part, il y a la chance. Il faut le vouloir très fort. On ne vient pas vous chercher. Donc c'est une démarche personnelle. Il y a un appel à candidature lancé publiquement dans les radios, les journaux, à la télé. Et on vous dit comment faire, vous inscrire. Aujourd'hui, c'est sur Internet. Et donc c'est une démarche personnelle. Donc c'est à vous de vouloir le faire et y aller. Et en plus, il faut y aller avec détermination et dévouement dans les tests. Si vous y allez juste pour voir, parce que c'est rigolo, j'ai eu comme candidat un astrophysicien qui était analyste dans une banque à Londres. Parce que les financiers, les banques, elles aiment bien les scientifiques pointus, parce que c'est eux qui arrivent à élaborer les concepts financiers les plus pointus. Il faut un pouvoir d'abstraction pointu, je peux vous dire, hein, dans la finance aujourd'hui, pour comprendre les produits dérivés qui n'ont plus rien à voir avec la matière qu'il y a derrière. Hein. C'est pas comme juste traiter des matières premières. Mais... Et il est venu, puis il dit, voilà, je suis rentré chez moi un soir, puis ma femme m'a dit, tiens, j'ai vu dans le journal, ils cherchent des gens qui ont fait ce type d'études, qui ont telle tranche d'âge, telle nationalité. Ah bah tiens, ah oui, tiens, c'est intéressant. C'était peu après la crise de 2008. Hein. Donc, vous êtes trop jeune pour avoir vécu ça de près, mais il y a 8 ans, il y a eu une crise financière à l'échelle mondiale très grave. Et il y a plein d'experts en finance qui sont retrouvés au chômage, ou enfin qui ont perdu leur job ou qui ont dû se recycler. Et donc ça motivait peut-être ce gars-là, mais on sentait que c'était plus pour tenter une expérience que parce qu'il sentait au fond de ses tripes, c'est vraiment ça qu'il voulait faire. Et nous, on veut des candidats dont on sente au fond de leur tripes qu'ils ont vraiment envie de se donner à devenir astronaute, servir leur agence spatiale, leur pays, faire avancer la connaissance en prenant des risques et en vivant cette expérience.
Et avec quelle proportion de femmes?
Ben, la même proportion en finale, d'accord, que celle qui se présente au départ, qui est de l'ordre de 15%.
Ah, d'accord.
Donc okay. Une femme sur 6 ou 7.
Est-ce que vous auriez des conseils pour un futur astronaute?
Ben, le conseil, c'est... y aller à fond, mais en sachant que c'est jamais gagné, parce que malheureusement c'est pas un métier pour lequel il y a une filière donnée qui suffit de suivre. Si vous voulez devenir médecin, il y a une filière existante. Vous savez quel effort et qu'est-ce qu'il faut faire pour le devenir. C'est pareil pour devenir juriste ou pour devenir ingénieur. Pour devenir astronaute, il n'y a pas de filière. Il faut avoir déjà exercé un métier auparavant. Et aujourd'hui, l'éventail est extrêmement large. Alors, il est encore réservé au côté scientifique. Ce n'est pas encore ouvert aux artistes peintres, aux chanteurs ou aux professeurs de lettres. Mais c'est quand même un éventail très large parce qu'il y a aujourd'hui une gamme de métiers purement scientifiques qui mènent, enfin représentés dans le corps des astronautes, notamment occidentaux, japonais, canadiens, européens, américains. C'est-à-dire vous avez vulcanologue, océanographe, chirurgien cardiaque, astrophysicien, physicien nucléaire, chimiste, biologiste, physiologiste, enfin, toutes les matières purement scientifiques de gens qui ont passé un doctorat pour faire de la recherche. Donc typiquement des chercheurs. C'est ce que j'appelle les profils scientifiques. Vous avez des astronautes sélectionnés parmi les gens ayant exercé des métiers à caractère technique. C'est tous les métiers d'ingénieur. Ingénieur en mécanique, en structure, en électronique, en propulsion, en informatique, en mécanisme, en électromagnétisme. Et puis vous avez tout l'éventail des métiers opérationnels qui, au départ, sont ceux dans lesquels on avait identifié les tout premiers. Il y a 50 ans, quand il a fallu sélectionner les premiers astronautes des premiers vols, on dit qu'est-ce qui se rapproche le plus d'un métier d'astronaute ? Le métier d'astronaute, c'est un métier d'opérateur. Le métier d'astronaute, c'est avant tout un métier d'opérateur. C'est quelqu'un à qui on confie une machine complexe qui doit faire fonctionner un environnement hostile. Donc c'est les métiers de pilote d'avion, pilote d'hélicoptère, pilote de sous-marin. On a des sous-mariniers dans les astronautes. Plongeur professionnel, nageur de combat. C'est ce que fait aussi un scientifique. En général, un scientifique qui fait de la recherche, il met en œuvre du matériel complexe, des microscopes électroniques, des analyseurs de spectre, des télescopes, etc. Mais si on sélectionne les astronautes parmi tous ces métiers, ça n'est pas du tout pour leur demander de l'exercer dans l'espace. Alors vous dites, mais pourquoi on sélectionne un vulcanologue ? C'est juste pour diversifier le corps des astronautes. Parce que la diversification d'un groupe rend ce groupe plus apte à trouver des solutions innovantes à des problèmes nouveaux. C'est ce que nous apprend la nature avec la biodiversité. Plus un groupe a des profils divers ensemble, qui savent travailler ensemble, et c'est pas forcément facile parce qu'un scientifique, c'est pas du tout les mêmes cultures académiques, c'est pas du tout la même formation, la même expérience professionnelle, et des gens qui ont travaillé ensemble auparavant. Donc, c'est pas forcément facile, mais voilà, si vous mettez dans un groupe des gens qui ont ces profils de formation et d'expérience vécue professionnelle différente, ça enrichit le groupe. Au départ, vous aviez à l'époque de Yuri Gagarin, les premiers corps d'astronautes américains, les First Seven, le Right Stuff. Vous avez vu l'étoffe des héros, le film, non ?
Non.
C'était que des pilotes, pilotes d'essai. Voilà, donc, oui, c'était important, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais le métier d'astronaute, c'est un métier d'opérateur. L'Allemand qu'on a sélectionné en 2009, c'est un vulcanologue, il n'a pas fait de vulcanologie dans l'espace, mais il a fait des expériences médicales. Vous pouvez avoir un pilote qui on va demander de faire de l'analyse de spectre, et vous pouvez avoir un médecin qui va faire une sortie dans l'espace qui ressemble plus à ce que devrait faire un plongeur. Donc, les qualités, c'était votre question, c'est ça ? Non, qu'est-ce qu'il faut ? Qu'est-ce que les conseils ? Les conseils, donc, c'est d'y aller à fond en supposant qu'au départ, vous avez une formation à caractère ou scientifique ou technique ou opérationnel et en sachant que ce n'est jamais gagné jusqu'à la fin. Donc, il ne faut pas tout miser là-dessus. Il ne faut pas modifier exprès ce qui aurait été vos études préférées parce que vous pensez que des études légèrement différentes vous donneraient plus de chances de devenir astronaute. Choisissez d'abord ce qui vous plaît le plus dans un métier terrestre. Et si c'est à caractère technico, scientifico, opérationnel, ben vous aurez votre chance quand vous candidaterez. Et puis, faire du sport. Voilà. Équilibrer entre l'activité intellectuelle, sociale et physique.
Alors, question un petit peu spéciale. Comment est-ce qu'on dort en apesanteur?
Alors, on dort dans des sacs de couchage avec une fermeture éclair centrale et puis des orifices pour la tête, les bras, sinon on s'échappe en dormant du sac. Et il y a des tendeurs aux quatre coins qui permettent d'attacher le sac où on veut. Donc moi, j'attachais souvent au plafond pour dormir face au sol, au plancher. Enfin, à ce qu'on convenait d'appeler le plancher de la navette. Et on peut demander à porter, à embarquer un harnais qui permet de maintenir la position fœtale. Une position qui permet de garder les genoux proches comme ça du torse. Et pas, parce qu'en apesanteur, le dos, ça j'explique d'ailleurs un peu là-dedans. Beaucoup d'astros se plaignaient de mal au dos le matin au réveil parce que la colonne se distend et se laisse courber par les muscles dorsaux puisqu'il n'y a pas de poids compensant apparent. Et puis on peut aussi demander à amener un oreiller qui ne sert à rien. Hein. Si on enlève la tête, elle reste au même endroit en apesanteur. Mais certains astros s'endorment mieux avec la sensation de la tête qui presse sur un oreiller comme à la maison. Je dirais que ça ressemble vraiment à du camping, avec quelques astuces qui permettent de se rapprocher de sensations terrestres où on se sent pressé sur quelque chose. Sur un matelas, parce qu'on peut serrer des ceintures autour du sac de couchage, pour que le corps presse sur un matelas très fin, une couche de mousse très fine sur une paroi du sac de couchage. Et voilà. Avec des bouchons d'oreilles si on ne veut pas être perturbé par le bruit, un masque sur les yeux si on ne veut pas être perturbé par la lumière, et puis un inducteur de sommeil, quelques médicaments pour celui qui veut absolument être sûr de bien dormir parce que le lendemain il a une tâche très complexe et très exigeante. Ça se rapproche du camping, la vie dans l'espace.
Il y a des horloges, tout ça, pour rester dans un cadre temporel, enfin avec du jour à la nuit.
Non, il n'y a pas d'horloge particulière autre que la montre. Et le planning de travail des astronautes est calqué sur un planning terrestre, donc des journées de 24 heures, dont 8 heures sont consacrées, donc un tiers, à la partie sommeil, et dont le fuseau horaire équivalent sur Terre peut varier. Moi, j'ai pas eu de bol dans mes 3 vols. J'ai dû me décaler de 9 à 12 heures de l'heure de Houston. Par exemple, pour travailler avec les Russes, il fallait qu'on soit éveillé avec eux. Donc, comme eux, ils vivaient sur l'heure de Moscou-Baïkonour, il y avait 9 heures de décalage horaire, parfois plus. Et c'est le but de la quarantaine qui précède le décollage, qui dure une semaine. C'est entre autres de nous décaler sur le fuseau horaire de notre mission.
Sur le plan physique et psychologique, comment vous sentiez-vous quand vous êtes rentré chez vous?
Alors, quand on rentre, on sait déjà à l'avance ce qu'on va faire, parce qu'on a déjà au moins 2 mois de débriefing. Donc de compte rendu et pour que les missions suivantes bénéficient tout de suite des leçons qu'on peut rapporter de notre mission. Donc les 2 mois qui suivent l'atterrissage sont déjà programmés, donc c'est du court terme. Hein. Mais au-delà, souvent rien n'est défini. Donc si un astronaute ne s'est pas préparé pour lui-même le type d'activité auquel il veut s'adonner. Une fois qu'il a réglé le post-vol, les quelques mois qui suivent le vol, ben il peut, c'est vrai qu'il peut, tomber dans une période où il est dans l'incertitude, où il peut déprimer un peu, pas au sens médical du terme, mais et c'est pas facile. C'est pas facile. C'est pour ça, il faut toujours se dire avant un vol que ce sera peut-être le dernier, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver avant un vol suivant, pour des raisons budgétaires, programmatiques, politiques, médicales. Peut être amené à ne pas voler. Et puis, réfléchir le plus tôt possible à comment on veut organiser notre vie professionnelle et éventuellement privée, hein, si on veut déménager ou je sais pas, après le vol. Mais ça, c'est à chacun de se le travailler.
Et physiquement?
Physiquement, après un vol court, typiquement, on rentre chez soi le soir même ou le lendemain. On a 2 jours de congé et on recommence à bosser le 3e jour. Avec interdiction de faire des sports de résistance faisant travailler les jambes de façon trop dynamique. Pas de squash, de tennis ou de choses comme ça. Le risque de déchirure est 100%. Parce qu'on a affaibli un peu nos muscles et nos tendons. Et pas le droit de conduire non plus. pendant 2-3 jours parce que le risque d'avoir un accident est trop élevé, parce que l'oreille interne qui gère notre sens de l'équilibre est pas encore recalibré. On nous déconseille de concevoir pour les hommes parce que nos spermatozoïdes sont irradiés. Bon, les femmes, il n'y a pas de conseil à leur donner parce que leurs ovules, elles les ont depuis la naissance. Hein. Mais on reprend, je dirais, une vie professionnelle rapidement, normale, mais qui consiste surtout en des débriefings, des comptes rendus pendant 2 mois et des conférences auprès des institutions, des politiques, pour que eux qui ont les gens qui ont le pouvoir de décision dans les programmes, qui ont suivi à la radio, à la télé notre mission, ben, tant que c'est frais dans leur esprit, tout de suite, on va les voir. Donc on a une visite à la Maison Blanche, au Congrès américain. Voilà. Donc enfin, la réponse principale, c'est faire attention à son corps qui n'a pas fini de se rétablir dans les jours qui suivent. Et puis, s'être préparé avant le vol à comment on veut organiser notre après-vol au-delà juste des 2-3 mois de débriefing.
Vous avez réparé le télescope Hubble en 1999. Quelles sensations avez-vous eues en sortie extravéhiculaire ?
Alors moi, je n'étais pas sorti sur ce vol. Je serais sorti si j'avais été sur le vol suivant d'Hubble, qui était prévu, avant que l'accident de Columbia arrête tout. Voilà. On a introduit comme événement dans l'histoire des vols habités ma mission de réparation du télescope Hubble, troisième mission de Hubble. Par contre, j'étais le responsable des sorties sur mon deuxième vol en cas de besoin. C'est-à-dire, c'est pas une mission programmée. Et finalement, on n'a pas eu besoin de sortir, donc je ne suis pas sorti. Mais je m'étais entraîné avec mon scaphandre. Mais ce que je peux dire de l'expérience vécue à l'entraînement, puis des collègues qui étaient dehors, c'est que l'expérience d'être dehors en scaphandre peut facilement être une expérience d'être vraiment détaché de son univers terrestre. Déjà dans le vaisseau, on peut le ressentir un peu. Si on regarde la Terre et qu'on voit qu'on n'est pas relié physiquement, on se sent extraterrestre. Déjà physiquement, il y a plein de changements dans le corps. Mais on peut ressentir une phase de détachement physique parce que c'est physiquement le cas. Mais j'ai un copain, Ed Lou, qui d'ailleurs, je lui consacre un chapitre dans mon livre sur Hubble, Histoire d'espace, mon premier livre. Seul dans l'univers, il était dans l'espace et il s'est attaché à la station avec un système de verrouillage spécial, de telle sorte que la station était dans son dos. Donc il avait dans son champ de vue un bout de terre, un bout de soleil et l'univers et rien d'autre. Donc, voilà. Il pouvait se ressentir être seul, isolé dans l'univers, en sachant que la Terre était par là, face au néant géant, noir d'encre de l'univers profond, vide de tout. Mais bon, j'étais pas dehors, donc je peux pas vous le dire avec mes mots. Mais chaque astronaute pourra vous le dire chacun avec leurs mots respectifs.
Mais quand même, vous étiez dans la station.
La navette, oui.
Oui, dans la navette, pardon. Et donc, ça, c'est quand même un rapport à l'infiniment grand. Parce qu'il est autour de
nous. Oui, je vous dis, quand on regarde ce que je disais tout à l'heure, quand on regarde par le hublot à l'opposé de la Terre ou du Soleil, et que c'est noir d'encre, quand il y a la lumière dans le cockpit, même sans la Terre et le Soleil, s'il y a la lumière dans le cockpit, ne serait-ce que pouvoir travailler, voir notre checklist, lire nos instructions, voir les interrupteurs, il faut allumer la lumière. Donc la pupille de l'œil est adaptée à un environnement éclairé. Eh bien, on a l'impression de voir le vide à l'infini. Et ça m'a rappelé, lorsque je m'entraînais aux sorties dans l'espace pour mon deuxième vol, on teste notre propre scaphandre réel dans le vrai vide, pour avoir confiance dans notre scaphandre. Et on a une valve sur le côté qu'on ouvre en cas de secours et on l'active dans le sas pour vérifier, pour voir ce que ça fait, le bruit, l'effet. Ça fait un sifflement, effectivement, puisqu'on crée une fuite. Donc on crée un trou de 5 à 6 mm de diamètre sur le côté. Et en tournant ma tête dans le casque, je voyais le vide directement entre mon œil et le vide dehors. Il n'y avait rien, puisque c'était à travers le trou que je regardais et par où l'air s'enfuyait en sifflant. Mais il y a des gars qui sont sortis en se replaçant mentalement comme lors de leur entraînement en piscine. Donc, ils rentrent dans la navette en ayant l'impression d'avoir juste répété ce qu'ils avaient fait en piscine et en ayant oublié qu'ils étaient dans le vide de l'espace. Alors qu'il y en a d'autres, ils sortent, ils attendent un moment, l'extase, enfin, comment on appelle ça, l'état élationnel. D'ailleurs, le mot élationnel, c'est un mot français qui n'est pas dans le dictionnaire. C'est très bizarre. Mais je l'ai vu dans des textes français, donc d'écrivains, l'état élationnel de une sorte de béatitude comme ça, il s'arrête un instant pour vivre l'instant. C'est comme Bruce McCandless, hein, je crois qu'il est dans les pages. Bruce McCandless, l'homme satellite. Alors lui, je peux vous dire que lui, il a vécu un instant inouï dans son existence et dans l'existence de l'humanité.
Ben oui, parce qu'il y a très peu d'êtres humains qui ont vécu ce type d'expérience.
Oui, alors attendez, je vais le retrouver quand même, parce que alors c'était en 80... En 80... Je pense que c'était en 80... Je vais vous le sortir tout de suite. C'était dans les années 80... Voilà. Le gars, il est dans son scooter, détaché de tout.
Mon Dieu.
Bah, les célèbres, cette photo.
Hein?
C'est pas mal.
Pris de la navette.
Est-ce qu'il y a des gens qui ont peur? Est-ce qu'il y a des crises d'angoisse ou...
Non, parce qu'on est sélectionné d'abord pour vérifier qu'on est taillé psychologiquement pour le job. Et en plus, à l'entraînement, on ne fait que s'entraîner à connaître par cœur le vaisseau et à se préparer à ce qu'on va faire. Donc, au moment où ça arrive, c'est normal dans notre vie de le faire.
Okay.
Si je vous donne un ticket pour aller demain dans l'espace, une semaine, vous auriez de grandes raisons d'avoir peur, parce que la peur, c'est la peur de l'inconnu, sous-entendu. Exactement. Mais nous, quand on part, on n'est pas face à l'inconnu. On sait exactement où l'on va, pourquoi, et c'est normal dans notre vie au moment où ça arrive. Voilà. D'autres questions ?
Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur les combinaisons ?
Les combinaisons côté russe, ça rappelle une boîte. On rentre dans une boîte. Et c'est unisize, fits all, comme on dit. Size fits all. En anglais, c'est comme ça quand c'est unitaille. Et alors, on peut ajuster un petit peu en orbite. Mais ce qui fait que dans le scaphandre russe, si vous êtes assez mince, vous pouvez presque rétracter votre bras et vous gratter le nez comme ça. Mais le scaphandre américain, il y a plusieurs tailles. C'est parfaitement ajusté pour chaque individu. Et quand vous le portez, vous avez l'impression, il ne faut surtout pas être claustrophobe, parce que à peine vous bougez comme ça, vous sentez une limite physique. Vous pouvez, c'est-à-dire que le torseau qui est rigide, il est à ça de votre torse. Donc vous n'êtes pas dans une boîte, vous êtes dans un carcan. Et donc, il épouse vraiment la forme du corps humain, plus que le scaphandre russe. Et il est encombrant. Il a des degrés de liberté limités, c'est-à-dire que la capacité de déformation du corps est très limitée, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'articulations possibles. Et en plus, il est fatigant. Parce qu'un scaphandre dans l'espace, il sert à quoi ? Il sert à vous mettre dans une enveloppe étanche, dans laquelle il y a de l'oxygène à la bonne pression, pour que vous puissiez vivre. Alors, pour que vous puissiez quand même déplacer les bras, les doigts, cette enveloppe étanche, on lui donne le mieux possible la forme d'un corps humain. Mais en fait, c'est un vaisseau spatial à lui tout seul. Un scaphandre spatial, comme ce que vous voyez là, il a tous les systèmes vitaux d'un vaisseau spatial. Il gère la pression, la température, la composition de l'atmosphère dans l'enveloppe étanche, donc oxygène, gaz carbonique, et fourniture d'oxygène, absorption de gaz carbonique, absorption d'humidité. Il a un système de télécommunication à deux fréquences. Il a un système de génération électrique, un système de refroidissement par un glaçon qui se fabrique derrière. Il a un mini-scooter intégré. Il a quatre lampes torches, trois caméras, appareils photo intégrés dans le casque, un mini-établi d'outils sur le torse. C'est un petit mini-vaisseau spatial autonome pour bosser, pour se déplacer. On l'aime, notre scaphandre. Mais il faut vraiment se l'approprier très vite comme une extension de son corps et pas comme une contrainte extérieure imposée à notre corps. La première fois qu'on le revêt et qu'on s'entraîne avec sous l'eau, parce que sous l'eau, on peut rester dans la durée avec une surpression dans le scaphandre par rapport à l'eau à l'extérieur. Je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui ont fait de la plongée.
On en fait tous les deux, hein, Arthur et moi.
En plongée, vous respirez de l'air qui a la pression ambiante. Donc vos poumons n'ont pas à faire d'effort pour se gonfler, puisque la pression qui est ici et celle qui est dans les poumons, c'est la même. Mais dans le cas du vol, dans le cas de l'entraînement en piscine, on met de l'air sous pression dans le scaphandre, qui a une pression plus élevée que celle de l'eau à côté, pour qu'il y ait le même différentiel entre la pression dans le scaphandre et le vide qui est dehors. Alors, il n'y a pas de problème pour respirer, hein, puisque vous êtes dans une enveloppe étanche, donc les poumons, et dans les poumons, et juste dehors, dans la petite épaisseur qu'il y a entre votre peau, et c'est la même pression. Mais c'est très fatigant, parce que le scaphandre, il a envie de prendre le plus de volume possible, puisqu'il est surgonflé par rapport à l'environnement extérieur. Et donc, dès que vous refermez une articulation, dès que vous faites ce geste, ou celui-là, vous pliez les jambes, momentanément, vous diminuez le volume du scaphandre. Donc, vous forcez contre le scaphandre qui tend à prendre le volume le plus détendu possible. C'est comme un ballon de football que vous essayez de déformer en enfonçant votre pouce dedans. Ça demande de l'effort. Donc, un scaphandre spatial comme ça, rien que de le déformer pour bouger les bras, ça vous mange la moitié de votre puissance musculaire. Donc c'est très fatigant. Donc c'est pour ça, quand on sait qu'on est peut-être amené à faire une sortie dans l'espace, programmée ou pas programmée, comme dans le cas de mon deuxième vol spatial, on fait beaucoup de musculation de la ceinture scapulaire, des deltoïdes, des pectoraux, de la partie supérieure du corps, pour être musclé face au scaphandre qui va limiter nos mouvements. Il faut apprendre à le déformer dans le sens le plus fluide possible. Parce que rapidement, on veut faire un geste, et puis il bloque, puis on a tendance à forcer pour le faire. Alors qu'il faut passer peut-être par un autre mouvement pour attraper un objet.
Vous avez été en contact de l'infiniment grand. Avez-vous pris conscience de certaines choses sur votre compréhension de l'univers ?
Non, en tout cas, ce qui est sûr, le vol spatial n'aide pas à comprendre des choses, mais il aide à se poser des questions auxquelles on pouvait ne pas penser avant. Donc c'est plus qu'il approfondit notre questionnement, le questionnement qu'on aurait pu avoir avant, ou en tout cas où il en crée de nouveau, mais il n'apporte pas des réponses. Mais la première fois qu'on voit la Terre depuis l'espace sur fond noir d'encre du cosmos, on s'est dit, on est seul. Il n'y a vraiment personne pour venir nous aider. Il y a le soleil, la terre, parfois la lune dans le champ de vue, et rien d'autre. Et on se dit, on a intérêt à bien gérer notre vaisseau spatial naturel. La Terre, on la voit comme... on fait la comparaison avec notre vaisseau spatial, parce qu'à l'œil nu, on voit qu'elle est finie. Et on essaie de faire les comparaisons, d'ailleurs, système après système. Le système qu'on appelle dans notre vaisseau, dans la station spatiale ou la navette, Environment Control Life Support System, système de contrôle de l'environnement et du support vie, qu'est-ce que c'est qui joue ce rôle-là pour la Terre ? Ben, c'est l'océan. On ne le sait pas, mais c'est l'océan qui est le principal producteur de l'oxygène qu'on respire, absorbeur du gaz carbonique, régulateur du cycle de l'eau, régulateur de la température. C'est pour ça qu'il faut protéger les océans. Et ça commence à la source des rivières qui se jettent dans les fleuves et puis après dans les océans. Mais on se dit... il n'y a vraiment que nous, et on a intérêt à faire attention à nous-mêmes. Mais quand on éteint toutes les lumières dans le cockpit, et que le soleil et la Terre sont dans le dos, et qu'on voit que c'est couvert d'étoiles qui ne scintillent pas et dont on perçoit bien les couleurs qui sont liées à la température, là on se dit c'est pas possible, on n'est pas seul. On n'est pas seul. Je ne pense pas qu'à l'œil nu on en voit plus qu'on peut en voir depuis la Terre d'un coin, je disais tout à l'heure, d'un point idéal d'observation du ciel nocturne, mais comme elles ne scintillent pas, elles sont très très nettes et on a du mal à imaginer qu'il n'y ait pas d'autres terres ailleurs. Mais bon, on n'a pas la réponse. Mais ce qui frappe le plus, c'est la beauté de la Terre. Parce que la caractéristique du champ visuel, quand on regarde la Terre, il y en a trois, c'est que le champ porte très large à 2500 km à la ronde, comme jamais il a pu porter auparavant. Le contenu de ce champ de vue change très vite. En 10 minutes, il a changé complètement. Puisque en 10 minutes, on passe d'un point à l'autre de ce qu'on voyait dans un champ de vue. Donc en quelques minutes, on passe de la chaîne de l'Himalaya aux atolls de Polynésie turquoise, au désert d'Afrique. Enfin, on passe de désert de forêt tropicale aux glaciers, aux chaînes de montagnes, aux îles magnifiques, comme ça, en quelques minutes ou dizaines de minutes. Donc c'est très beau, c'est émerveillant, c'est émouvant, ça nous fait avoir des larmes aux yeux. D'ailleurs, on est vraiment ému, comme un peu comme dans le film Gravity. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais il y a un commandant de bord, un peu le cake qui a tout vu, costaud. Il y a trois reprises, le réalisateur le fait s'émerveiller de la beauté de la Terre dans le film. Donc comme quoi, même le gars le plus endurci peut être ému devant la beauté de la Terre, et j'ai vécu ça. Et là, on se pose la question, mais comment la Terre peut être si belle? Qu'est-ce qui a pu faire que cet objet abritant la vie puisse exister? On n'a pas la réponse. Mais c'est tellement beau que on se demande comment c'est arrivé et est-ce que ça existe ailleurs.
Avez-vous déjà observé quelque chose dans l'espace que vous ne sauriez expliquer?
Non, on a fini toujours par pouvoir expliquer tout ce qu'on a observé, mais parfois pas spontanément. Par exemple, la première fois que vous voyez une grande traînée lumineuse sur la Terre, on regarde la Terre du passage nocturne, hein, puisque la Terre, je vous rappelle, donc il y a une moitié qui est dans le noir, là il y a le Soleil, et nous, notre orbite, elle fait comme ça. Donc il y a une partie de l'orbite qui est éclairée par le Soleil pendant 45 minutes, et puis une partie qui est de nuit. Donc toutes les 45 minutes, le Soleil se lève ou se couche. Et si on est sur une orbite comme mon premier vol, où on a la chance d'être très incliné par rapport au plan de l'équateur, on était à 57 degrés, hein, qui est l'inclinaison la plus forte qui existe dans les vols habités, pendant 45 minutes, on survole l'hémisphère nord où tout est blanc parce que c'est l'hiver, et puis 45 minutes, c'est la saison opposée. Donc on change de saison opposée toutes les 45 minutes. Et pourquoi je parlais de ça? Oui, alors on survole le côté de la Terre où il fait nuit, et puis une fois, on voit une grande traînée lumineuse et on ne comprend pas, parce que c'est très rapide et ça traverse l'équivalent de la France en quelques minutes. Et on met du temps à réaliser que c'est une étoile filante, parce qu'on la voit sur fond de terre. D'habitude, les étoiles filantes, on les voit sur fond du ciel. Bon, voilà, ce genre de choses, quand on n'a pas l'habitude, ça surprend. Mais sinon, tout ce qu'on a vu, on a toujours pu expliquer.
Les débris en orbite étaient-ils source de problèmes?
C'est un risque identifié qui est élevé, effectivement. Et on en voit parfois. On voit une... Vous avez déjà vu des satellites?
Oui.
Hein, plusieurs... Ben, c'est la même chose pour nous, mais de l'espace. On voit à un moment donné un point lumineux qui vraiment, d'un seul coup, apparaît à une trajectoire perpendiculaire à la nôtre ou pas, ou dans le même sens, et hop, il disparaît. Et en fait, il apparaît que le temps où il est éclairé par le Soleil. Et dès qu'il passe à l'ombre de la Terre, ben, il n'est plus éclairé, donc on ne le voit plus. Et on a eu quelques impacts de débris, mais sans conséquence. C'est ce qui justifie le risque de perte de vie humaine ou de destruction du vaisseau de l'ordre de 1 sur 270. C'est des estimations du risque. C'est très très risqué. Mais on ne les voit pas. Dans le film Gravity, je ne sais pas si vous l'avez vu, on vous montre les débris, et il y en a beaucoup qui arrivent. C'est pour permettre aux spectateurs de ressentir le risque. Mais dans la réalité, si un satellite explose, les débris partent dans toutes les directions. Vous n'avez pas plusieurs débris qui volent en formation serrée en parallèle. Ça part d'un point. Mais si vous avez la malchance qu'il y en ait un qui arrive vers vous, il peut créer les mêmes dégâts qu'on voit dans le film. Mais vous ne le voyez pas, parce qu'il voyage à plusieurs kilomètres par seconde par rapport à vous. Donc il y a une seconde, il est à 10 km. Il y a une demi-seconde, il est à 5 km. Donc un truc gros comme ça, vous ne le voyez pas à 5 km. En fait, vous voyez le dégât si vous avez la chance que ce n'est pas sur vous qu'il arrive, qu'au moment où il détruit ce qu'il y a sous vos yeux. Et si vous voyez que d'un seul coup, il y a comme une explosion sous vos yeux et tout part dans une direction, et vous savez que c'est un endroit où il n'y avait pas de réservoir, il n'y avait rien sous pression, ben c'est un truc qui vient de percuter. Donc dans la pratique, on ne voit pas les débris arriver. On ne voit pas ce qui nous peut nous donner la sensation du risque dû aux débris. Mais on sait qu'ils sont là. Plusieurs fois par an, parfois d'ailleurs l'année dernière, une fois c'était en moins de 2 semaines, on dévie légèrement l'orbite, on déforme légèrement l'orbite de l'ISS pour la faire éviter la trajectoire d'un débris identifié potentiellement dangereux. C'est-à-dire que dès qu'un débris a quelques centimètres de taille, dans ce qui concerne en tout cas les orbites basses, il est repéré par des radars extrêmement à très haute résolution. Et la NASA maintient un catalogue, avec l'ESA d'ailleurs en collaboration, maintient un catalogue de millions d'objets. Et on a pour chaque objet les paramètres orbitaux extrêmement précis, qui sont parfaitement déterminés. Et on sait prédire à l'avance que tel débris va passer à moins de 5 km de l'ISS. Or nous, on s'interdit qu'il y ait un débris. On s'interdit dans les prédictions qu'il y ait un débris qui passe à moins de 5 km de l'ISS. Et si c'est le cas, eh bien, on va faire en sorte que cette sphère virtuelle, cette clôture virtuelle qu'on s'impose à nous-mêmes de 5 km, en gros, c'est quelques miles, hein, c'est 3 miles, je crois, ou 5 miles autour de l'ISS, eh bien, on va allumer des petits moteurs dans l'ISS pour que cette sphère entourant l'ISS, eh bien, elle passe à côté de là où passera le débris. Et donc, il y a certainement des débris, des micrométéorites qui ont percuté la station déjà. Mais c'est pour ça que toutes les zones pressurisées où peuvent être amenées à travailler ou vivre les astronautes ont une double carapace qu'on appelle les MMOD, Micrometeorite Orbital Debris Shield, écran de protection contre les débris orbitaux micrométéoritiques, donc d'origine naturelle. Les artificiels, s'il y en a qui sont petits, on les met dans la même catégorie que les débris naturels. Mais en tout cas, on ne les voit pas. Le risque est élevé. Et dans mon deuxième vol, par exemple, j'ai pris en photo un impact de débris sur un pare-brise, c'est-à-dire un petit point, et puis comme des traces en étoile, comme une particule de peinture qui s'écrase à grande vitesse sur une surface plane. J'ai pris une photo, j'ai envoyé au sol, ils nous ont dit qu'il n'y avait pas de risque, mais le panneau de verre a été remplacé après, avant le vol suivant. Donc ça veut dire que c'est plus au sérieux. Non, mais j'ai adoré à l'école polytechnique mes cours de mécanique quantique, d'ailleurs je me suis replongé récemment. Et j'adore l'idée que l'univers soit hyper vaste et qu'il y ait plein de choses à découvrir. Enfin, déjà sans aller dans l'espace, même sur Terre, à l'océan, il y a encore plein de choses à découvrir dans l'océan. D'ailleurs, l'avenir de l'humanité sera assuré par les découvertes qu'on fera dans l'océan, découvertes au sens pas seulement végétaux et animaux, etc., mais technologique, de ce qu'on pourra retirer comme utilité pratique, économique de l'océan et de l'espace, hein, l'avenir. Ce qui m'intrigue dans l'infiniment petit, c'est le caractère statistique démontré en laboratoire. Vous connaissez le paradoxe du chat de Schrödinger ?
Bien sûr. Hein ? Oui. C'était une analogie pour expliquer le fait que deux éléments pouvaient se produire.
J'ai un dessin humoristique. C'est un gars qui attend dans une clinique vétérinaire. Et il y a la vétérinaire qui revient avec un dossier et qui dit: Monsieur Schrödinger, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Mais c'est très intriguant parce que à l'échelle quantique, le principe de causalité n'est plus vérifié. Il y a des expériences qui montrent que l'effet a précédé la cause. Mais ça peut exister qu'à l'échelle quantique. C'est très troublant. Donc moi, ce qui me gêne, ce qui m'intrigue le plus, c'est plus la notion de temps que la notion d'infini. Parce que notre univers, s'il est bien né du Big Bang, il n'est pas infini aujourd'hui.
Oui, dans un sens.
Il a comment, l'espace infini au sens mathématique. C'est-à-dire que, quelle que soit la métrique, quelle que soit la règle mathématique, la convention mathématique que je me donne pour mesurer mon univers, je n'arriverai pas, si un génie supérieur, un génie ou un dieu pouvait le mesurer, notre univers, ben il n'est pas infini aujourd'hui, parce que ça se retourne sur lui-même, enfin je veux dire, il n'a pas atteint d'un seul coup, il continue à être en expansion. Donc, je regarde. Mais les théories physiques qui modélisent, enfin, les théories de cosmologie les plus acceptées aujourd'hui décrivant notre univers observable permettent l'existence d'univers parallèles à l'infini. Enfin non, c'est peut-être pas à l'infini, mais...
C'est pour autant de particules qui puissent exister dans tel ou tel état, en fait.
Mais donc, ça reste des questions très ouvertes. Moi, j'aime bien l'idée qu'il y a eu quelque chose avant le Big Bang. J'aime bien l'idée qu'il y a des univers parallèles, je sais pas combien. J'aime bien l'idée que les notions de voyage dans le temps soit compatible avec le concept d'univers parallèle, puisque les théories de la relativité générale décrivant notre univers permettent l'existence de singularités dans l'espace-temps. Mmh. Si un jour vous faites des espaces de Hilbert de la géométrie, comment on appelle ça, la géométrie... géométrie einsteinienne, là, comment on appelle ça, les tenseurs.
Ah, les torseurs, il me semble que c'est un truc comme ça.
Oui. Mais les théories géométriques des espaces de Hilbert que j'ai étudié à l'école polytechnique, qui permettent. J'ai l'adjectif, c'est le bout de la langue, ça va revenir. Mais qui permettent aux physiciens cosmologistes de décrire notre univers, permettent l'existence de points de singularité où les voyages dans le temps et dans les univers parallèles seraient possibles. Mais ça, c'est purement théorique. Mais c'est des théories fondées. C'est-à-dire, c'est pas des élucubrations d'écrivains de science-fiction qui disent, tiens, allez, on va supposer que le voyage dans le temps est possible, etc. C'est fascinant, mais ça reste que des mathématiques théoriques très pointues et qu'on n'a aucun moyen de vérifier en laboratoire. Je suis plus fasciné par la mécanique quantique que par les théories de la relativité générale qui permettent aux cosmologistes d'imaginer les espaces parallèles et les trous de verre et ce qui se passe dans les trous noirs, etc. Parce que la mécanique quantique, on fait des expériences en labo, palpables. D'ailleurs, on l'utilise tous les jours. Hein. Et dans quelques années, il y aura des ordinateurs avec cryptés par mécanique quantique et par définition totalement inviolables. Le phénomène de synchronicité est fascinant. Deux particules qui sont à des millions de kilomètres l'une de l'autre communiquent instantanément. Sans que ça passe par un transport d'informations à la vitesse de la lumière. Ça, c'est fascinant. Le principe de synchronicité. Je sais pas si...
Je connais un peu.
Vous prenez deux particules jumelles créées par un même phénomène, donc qui ont le même code génétique, entre guillemets, de particules élémentaires. Et si vous interagissez en tant qu'observateur sur l'une, l'autre qui peut être à des millions de kilomètres instantanément, sans la relation de temps, de trajet, de l'information, réagit exactement comme l'autre. Ouais. Comme si c'était un tout lié dans un univers parallèle où il n'y a pas à prendre en compte l'effet de distance.
C'est Einstein qui en a parlé en parlant de boîte à chaussures. Et...
Oui, oui, là, lui au départ il n'y croyait pas. Donc,
oui,
l'effet EPR, là, mais l'effet. Comment il s'appelle là? Et c'est une expérience de. Il n'y a pas très longtemps, il y a une expérience il y a une quinzaine d'années qui a mis en défaut l'expérience de pensée de Rosen, Einstein, le père Einstein, Polovsky et Rosen, je crois, c'est les trois physiciens qui ont défini cette expérience de pensée. C'est intéressant, les expériences de pensée. C'est comme si vous mettez une expérience de pensée intéressante d'Einstein. Imaginez que vous êtes dans un ascenseur au milieu de tout dans l'univers, loin de toute masse. Et il n'y a pas de hublot. Et il y a une grosse poignée à l'extérieur et il y a un génie qui prend la poignée et qui accélère l'ascenseur à la vitesse de 9,81 mètres par seconde carré. C'est ce qu'on appelle une accélération en physique. Vous n'avez pas étudié ça encore, mais chaque seconde, la vitesse augmente de 9,81 mètres par seconde. Donc l'unité, c'est les mètres par seconde carré. Eh bien, imaginez, je prends et puis j'accélère. Vous, à l'intérieur, vous êtes plaqué sur le plancher de l'ascenseur. Eh bien, il n'y a absolument rien qui vous dit, si vous êtes plaqué sur le plancher parce que vous êtes en train d'être accéléré dans votre mouvement, ou alors vous êtes immobile mais attiré par une masse géante comme la Terre sous vos pieds. Et en fait, dans la théorie de la relativité générale, c'est la même chose. Et le poids n'est pas une force, c'est juste que la masse courbe l'espace-temps et fait que vous êtes accéléré. Mais là, selon Newton, nous sommes plaqués sur le plancher avec la sensation de notre poids sous la plante de nos pieds parce que la Terre nous attire. Mais en fait, on pourrait très bien être dans une pièce, si c'était fermé là, au milieu de l'univers et loin de toute masse, sans attraction gravitationnelle de quoi que ce soit, mais il y a quelqu'un qui est en train de nous accélérer en tirant très fort sur la poignée.
Connaissez-vous des liens qui unissent infiniment petits et grands, mis à part l'énergie sombre ?
Alors, ça, je sais pas. Alors, moi, je suis pas astrophysicien, donc je vous réponds avec un avis d'observateur extérieur, et je me trompe peut-être. Mais à ma connaissance, que ce soit la matière noire ou l'énergie sombre, ce sont deux concepts qu'on est obligé de les introduire dans les modèles mathématiques permettant d'avoir des lois physiques décrivant notre univers tel qu'on l'observe, pour que ça marche. Mais on ne sait pas ce que c'est. Et à ma connaissance aujourd'hui, expérimentalement, l'énergie noire ou sombre, ça, on
peut... oui, c'est la même chose.
En anglais, c'est le mot dark. Il n'y a pas black, c'est dark energy, dark matter. Donc parfois, on traduit en français par noir ou sombre. Mais il n'y a aucune expérience qui a démontré leur existence. On est obligé d'introduire ces concepts pour que les équations marchent. C'est terrible. Mais les physiciens s'arrachent les cheveux, ils ne savent pas ce que c'est. On ne sait pas ce que c'est. Il faut qu'il y ait un truc de genre pour que les équations de la relativité générale marchent avec ce qu'on observe. Et dès qu'on les introduit, les équations marchent effectivement très bien. Et même permettre de faire des prédictions de phénomènes qu'on observe. Donc il y a une concordance expérimentalement de la loi de la relativité générale, mais en introduisant ces concepts. Mais c'est purement abstrait. C'est terrible. Mais pire que ça, c'est quand on dit qu'on est capable d'observer que 5% de notre univers. Donc non seulement on ne sait pas s'il y a d'autres univers, mais juste au moins le nôtre, on est capable d'en observer, de faire des mesures dans toutes les gammes radio, X, optique, que de 5%. C'est frustrant quand même.
Plutôt. Mais sinon, vous ne connaissez pas d'autres liens qui pourraient les unir, par exemple ?
Ben, là, si on rentre dans dans ce qui relève de la conscience et de ce qu'on appelle les états modifiés de conscience. En fait, tout ce qui n'est pas aujourd'hui dans le domaine de la physique rationnelle, voilà, ça dépend de vos croyances, ça dépend de vos intuitions, de vos... Il y a des gens qui ont des dons incroyables et on ne sait pas l'expliquer. Hein. Ça ne veut pas dire que c'est de la foutaise. On ne sait pas expliquer, mais... Si on accepte l'idée que au-delà du monde décrit par les lois de la physique aujourd'hui, il y a autre chose, qu'on peut appeler l'intuition, les niveaux de conscience supérieurs qui vont au-delà de la matière et qui permettent de voir à distance, ou les voyages astro, les prémonitions, ces trucs-là. Il y a des tas de théories, mais c'est des gens qui essaient de coller des théories physiques à l'extrasensorialité, mais ça reste du paranormal aujourd'hui. Donc personne ne peut dire que c'est vrai ou que c'est pas vrai. C'est comme les extraterrestres. Hein. Une question qu'on pose très souvent aux astronautes, est-ce que vous croyez aux extraterrestres? Ouais. C'est un mélange de deux questions qui n'ont rien à voir. C'est est-ce que vous croyez qu'il y a de la vie ailleurs? Et si oui, est-ce que vous croyez même qu'il y a de la vie intelligente? Et est-ce qu'il y a bien des petits objets volants ou gros objets qui nous rendent visite et qui sont pilotés par des extraterrestres? La recherche de vie ailleurs, c'est l'objet d'une science très sérieuse qui s'appelle l'astrobiologie et qui motive même des expériences qui ont lieu dans l'ISS. On a des expériences d'astrobiologie dans l'ISS en amenant des tardigrades, par exemple. Je sais pas, ces petits extrémophiles là. Survivent de façon absolument hallucinante. Ils survivent dans le vide.
Des températures
de moins de 100 à plus 150 degrés, aux ultraviolets mortels pour l'homme, aux rayons cosmiques irradiés.
Oh, ouais, aux irradiations.
C'est dingue.
Mais qu'est-ce que c'est que des tardigrades?
Bah, c'est le nom de ces animaux.
Ah, d'accord.
Oui.
Ouais, c'est tout petit.
Et sinon, les ovnis, les phénomènes aérospatiaux identifiés, sont avérés en tant que phénomène. C'est-à-dire qu'il y a des cas d'ovnis, d'objets qui ont vraiment été là à des vitesses qu'on ne comprend pas, qui dépassent ce qu'on est capable de faire, des virages, avec des témoignages à la fois de gens au sol, en vol, radar, pilote, etc. Mais on ne sait pas du tout ce que c'est. On ne sait pas du tout ce que c'est, et encore moins si ce sont des gens dedans, quoi. L'hypothèse extraterrestre est une des hypothèses, mais ce n'est peut-être pas la bonne. Le phénomène OVNI est avéré en tant qu'objet volant, ou maintenant on dit pan. Phénomène aérospatial non identifié. Il y a eu un phénomène aérospatial qui a bien eu lieu, mais on ne sait pas du tout ce que c'est. Et c'est incompréhensible par les lois de la physique qu'on maîtrise aujourd'hui, même du plus haut niveau. Mais ça ne veut pas dire du tout que ce sont des extraterrestres intelligents qui sont dedans. Hein. Les gens mélangent les choses. Peut-être qu'un jour on saura.
Pour effectuer des missions spatiales, vaut-il mieux envoyer des robots ou des humains?
Ah, le plus efficace, c'est l'homme. Mais ça coûte cher, c'est dangereux. Donc il faut d'abord envoyer des robots, ne serait-ce que pour trouver à l'avance le site idéal où envoyer des humains. Parce que si on envoie des humains sans être sûr que le site est le bon site où les humains peuvent apporter leur valeur ajoutée, on aura perdu du temps, de l'argent et des milliards pour rien. Et mis à un risque élevé des gens pour rien. Donc il faut des robots à l'avance, en éclaireur. Il faut des robots accompagnateurs des humains pour les tâches répétitives, les tâches physiquement trop dures ou les tâches trop difficiles. Mais jamais un robot pourra remplacer un humain in fine.
Et un humain apporte quoi de plus qu'un robot?
Ah, physiquement, pas grand-chose. Le robot, il fait que ce pour quoi on l'a programmé. Qui est extrêmement limité. C'est ce pourquoi on l'a programmé. Et on ne peut pas le programmer. En gros, si on voulait envoyer un robot capable de toutes les performances cognitives, intuitives, intellectuelles, de raisonnement, de décision, qu'on connaît être présent chez l'être humain, ça coûterait plus cher qu'envoyer un humain. Oui, l'intelligence artificielle, c'était hyper à la mode il y a 30 ans quand j'étais un super-héros. Ben, aujourd'hui, ça n'est toujours pas au point où le robot est supérieur à l'homme dans sa capacité de cognition, d'intuition, de prise de décision, quand le schéma est très complexe et totalement inconnu et invécu avant. Alors qu'un robot, il ne peut que exécuter des programmes que l'homme a imaginés, donc basés sur ce qu'il connaît. Et quand il est face à l'inconnu, le robot, bah, il n'a pas la capacité de s'augmenter lui-même comme l'homme est capable de le faire. Mais c'est sûr qu'il ramène énormément d'infos à l'avance. Mais regardez, vous savez que Jack Schmitt, en quelques heures sur la Lune, a ramené les meilleurs échantillons qu'aucun robot avant n'avait ramené, ni ses collègues pilotes, parce qu'ils n'avaient pas l'œil, alors que lui était géologue. Mais ils ont parcouru une trentaine de kilomètres en quelques heures et ramené des échantillons comme jamais sur la Lune. Alors que regardez ce qu'ont parcouru les robots martiens depuis qu'ils les ont envoyés. Ils ont fait ce qu'a fait Jack Schmitt en une journée. Ils ont commencé à peine à le faire en 10 ans. En 10 ans, cumulés. Parce que le robot, il fait ce pourquoi on l'a programmé, et pourtant on le programme avec le maximum de capacité de décider lui-même. Mais bon, mais tout, même les roboticiens l'admettent. L'homme est supérieur au robot globalement dans sa capacité d'explorer. En tant qu'être explorateur, dans la fonction d'exploration, l'homme est nettement supérieur au meilleur robot d'aujourd'hui. Ce sera peut-être pas le cas dans 30 ans, je ne sais pas, mais en tout cas aujourd'hui c'est comme ça. Donc des humains iront sur Mars, mais avant on aura envoyé un paquet de robots pour défricher le terrain.
D'accord. Alors moi j'ai une question, et les missions sur la Lune, ce serait une bonne chose d'installer...
Oui, ça va revenir. Je pense qu'on retournera sur la Lune au lieu d'aller sur Mars.
Ça a été abandonné, enfin, mis de côté ou...
Mis de côté, et puis après... mais ça revient à la mode là maintenant.
Oui, c'est la Chine je crois qui...
Non, même les Américains.
Ah, même les Américains.
Obama, la Maison Blanche, l'administration américaine qu'on dit, il y a quelques années, disait non, on l'a déjà fait.
Oui.
Donc visons un astéroïde ou Mars, mais depuis plusieurs années, le Congrès fait pression parce que la Lune, on est capable d'y aller dans un temps raisonnable par rapport au public qui veut voir arriver des résultats, et c'est budgétairement, sur le plan du risque, c'est une bonne base pour apprendre. C'est un bon moyen d'apprendre ce que c'est qu'entretenir une base habitée sur un autre corps céleste. Même si ce n'est pas le même environnement que sur Mars, donc des technologies, les matériaux ne seront peut-être pas les mêmes. Mais en tout cas, on peut converser avec la Terre, on peut sauver l'équipage rapidement, on peut le ravitailler, on peut y aller et réparer, amener du matériel s'il faut, et développer le concept opérationnel, développer les opérations. Parce que vous savez, dans le domaine spatial... Le challenge, c'est pas tellement de concevoir un vaisseau. Les ingénieurs, ils se régalent. Ils sont capables d'inventer un vaisseau très performant. Mais une fois qu'on a conçu un vaisseau très compliqué, c'est comment l'utiliser.
Exact.
C'est plus difficile dans l'histoire des vols habités. Rédiger le mode d'emploi de l'ISS pour les astronautes, ce qu'on appelle le Ops Manual, c'est un challenge qui était beaucoup plus difficile que concevoir le vaisseau lui-même. Un ingénieur qui le connaît par cœur, qui l'a créé, il n'a même pas besoin de checklist, il le connaît. Mais comment entraîner un équipage qui n'est pas le concepteur à savoir l'utiliser? Quand il y a des milliers d'interrupteurs et des cas possibles de panne, de machin. Pour la TV, là, dont j'ai été le senior advisor astronaute, ça a été plus difficile de mettre au point la checklist, les procédures permettant de le faire fonctionner,
Que de le concevoir.
Parce que c'était très facile de se planter et de le casser. en faisant une fausse manip, en manipulant un interrupteur avant l'autre, bah, y a un bras qui fait ça, ou un moteur qui s'allume alors que l'autre, ou alors qu'à ce moment-là, il ne fallait pas allumer un moteur parce que tel autre équipement était en fonctionnement. Enfin, c'est hyper, hyper compliqué. D'accord. Et apprendre à mettre au point un concept opérationnel pour une nouvelle machine complexe, ce n'est pas facile.
Et c'est là où est la difficulté.
Oui. Penser les opérations. Dans quel ordre je vais faire quoi? Et comment je change cet ordre dans lequel je dois faire quoi en fonction des pannes qui arrivent dans le désordre? Et c'est ce à quoi on jongle, nous, notre temps passé dans le simulateur. C'est jongler sur comment dévier du plan principal de la checklist pour arriver à ce qu'on s'en sorte. Sinon, c'est boum.
Voilà, c'est la fin de l'interview. Elle a duré assez longtemps. Je remercie ceux qui sont restés jusqu'au bout. J'espère que vous avez pu apprendre des trucs intéressants. Et je vous dis à la prochaine sur le site. À plus.